CJSO 101.7. Tête première est une présentation de Lucier, développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu et du magazine Contact Affaires. Tête première, l'émission où les débats font avancer les choses. Voici votre chef d'orchestre, Denis Marion, à CJSO. C'est Tête première.
Bonjour tout le monde. Très heureux cette semaine encore de vous accueillir. On est le 9 mars, à quelques jours du changement d'heure qui va rallonger nos journées. Je vous rappelle que c'est le bon moment de changer votre pile d'avertisseur de fumée. Je suis un ancien président de régie d'incendie. C'est des choses qui nous traversent l'esprit quand on voit arriver les changements d'heure. Et j'espère que tout le monde va bien. Vous savez, je suis toujours surpris parce que pour préparer l'émission, on suit l'actualité, on regarde ce qui se passe dans la région pour essayer de vous préparer une émission qui puisse vous intéresser. Puis je suis vraiment surpris de voir à chaque semaine combien il s'en passe d'affaires dans la région. Ça fait pas mal de sujets à traiter. Et comme disait une amie à moi, choisir, c'est renoncer. Donc, on ne peut pas parler de tout. Mais on constate quand même que ça bouge dans la région, puis ça vaut la peine de le constater. Ça nous met de bonne humeur. Alors, voir ce qui s'en vient et même ce qui se fait déjà. Comprendre et entendre les acteurs du changement en développement économique, c'est important, vous le savez. Des entreprises, des fournisseurs, des clients, des travailleurs. C'est très réel, le développement économique. Ce n'est pas juste un concept. Et puis, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Parce que, qu'on le veuille ou non, on s'engage ensemble, tout le monde, dans une transition climatique qui doit être assumée par tout le monde. C'est une réalité pour nos entreprises, ici, même dans la région. Ça a un impact sur la rentabilité de ces entreprises-là et sur leur empreinte environnementale. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les performances environnementales peuvent être au bénéfice du développement économique? C'est compliqué, oui et non, parce qu'on commence enfin à voir des exemples très concrets de ce qui peut se faire avec du vrai monde, avec des entreprises que vous connaissez. Je prends par exemple Botanics Comptoir Richelieu et le Recyclocentre. Restez avec nous parce que je pense que ça risque d'être passionnant.
En hiver comme en été, avoir un bon système de climatisation et de chauffage, c'est la clé du confort à la maison. Climatisation Jimmy Chassé fait la vente, l'installation et la réparation de systèmes murales, de systèmes de climatisation centrale, d'air climatisé et de thermopompes. En exclusivité régionale, nous avons pour vous les produits Daikin, les meilleures thermopompes au monde. À votre service depuis plus de 13 ans, Climatisation Jimmy Chassé, au 4210 Route-Marie-Victorin et au 450-855-1776. Psst, reste à l'affût. Ce printemps, nous saurons vous surprendre.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
Les 20 hits de la semaine au décompte Top 20.
Salut, ici Bob Péloquin. Voici le numéro 1 cette semaine. Numéro 1.
Baby, show me you can calm down.
Samedi 14h à CJSO 101.7 au rythme de la région.
Chez Meubles André Beaulieu jusqu'au 29 mars, profitez de notre promotion des économies bien mijotées. Plus vous achetez, plus vous économisez sur les électroménagers KitchenAid. Achetez 3 électroménagers admissibles, économisez 300$ additionnels. Achetez 4 électroménagers admissibles, économisez 400$ additionnels. Achetez 5 électroménagers admissibles, économisez 500$ additionnels. Venez rencontrer nos spécialistes qui sauront vous guider. Profitez de la livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Pour en savoir plus, visitez lemeublebeaulieu.ca.
Tête première est une présentation de Lucier, développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu et du magazine Contact Affaires. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud, de retour à Tête première avec Denis Marion.
Écoutez, on va parler de choses... extrêmement intéressante et très d'actualité. On va parler de virage vert, d'économie circulaire, de développement économique de la région, mais on va parler des entreprises, on va parler de façon très, très concrète. On va essayer de faire des liens entre la vraie vie de ce qui est vécu dans les entreprises et les objectifs qu'on poursuit. J'ai un bon groupe d'invités aujourd'hui que je vous nomme tout de suite. D'abord, Sylvie Pouliot, qui est la directrice générale de la SADC, Pierre de Sorel. Bonjour Sylvie.
Bonjour Denis.
Mario Fortin, que vous connaissez aussi, qui est directeur général du CJE, mais qui est ici pour le Recyclocentre et pour l'Écocentre de la MRC Pierre de Sorel, parce que c'est vous autres qui en êtes les gestionnaires.
Absolument.
Bonjour Mario.
Bonjour.
Héloïse Paquin, copropriétaire du Botanix, de Botanix Comptoir Richelieu. Très heureux, Héloïse, de t'accueillir aujourd'hui.
Bonjour, Denis.
René Lachapelle, qui est un citoyen bien connu dans la région et qui est aussi un chercheur en développement des communautés territoriales. Bonjour, René.
Bonjour, Denis.
Et au téléphone, on a la présidente directrice générale du Comité 21. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi elle est là. Lorraine Simard. Bonjour, Lorraine.
Oui, bonjour. Ça fait plaisir.
Très heureux de vous accueillir. Donc, on se lance. Sylvie Pouliot, hier, la SADC, avec d'autres partenaires qu'on va nommer, avait annoncé que vous accompagnez 4 entreprises de la région. Je les nomme rapidement, là. Botanix, Comptoir Richelieu, on a Héloïse avec nous. GSR, Construction des Contaminations, le Recyclocentre de Sorel-Tracy et Sablage Peinture Richelieu. Est-ce que c'est possible de nous dire un peu... pourquoi vous faisiez cet événement-là hier et qu'est-ce que vous cherchiez à nous apprendre?
Bien, en fait, nous, on pense que le développement économique va de pair avec le développement durable, environnemental. Et c'est pour ça qu'on a parti ce projet-là. Ça s'appelle le projet Montérégie circulaire volet Pierre de Sorel. C'est que c'est un programme qui accompagne, grâce à des experts, on pense au CTTEI, on pense au Comité 21, qui accompagne des entreprises pour entreprendre leur virage vert, mais toujours en ayant en tête faire des gains économiques. Pourquoi? Parce qu'on pense que le développement durable, bien, c'est payant. Puis, lorsque tu décides de prendre et d'optimiser qu'est-ce que tu fais, tes déchets en particulier, tu sais, on parle de l'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, de faire en sorte que dans l'économie dite linéaire, ça, c'est notre économie qu'on vit au jour le jour, c'est qu'à la fin de la chaîne de production, il y a des déchets. Or, en économie circulaire, c'est que tu prends ces déchets-là, puis tu en fais des ressources, des opportunités. Alors, comment tu peux prendre ces déchets-là et dire, bien, j'utilise l'énergie que je gaspille, la matière que je gaspille, toutes sortes de choses que je gaspille, puis j'en fais des opportunités. Donc, on a décidé de s'associer avec des experts pour accompagner ces entreprises.
Parmi les experts, oui. Il y a le fameux CTTEI, oui. Le Centre de transfert technologique en écologie industrielle. C'est un organisme collégial, c'est un organisme qui est associé au cégep de Sorel-Tracy. C'est un organisme qui a plus de 20 ans d'existence. On aura l'occasion, je me promets bien, de recevoir Claude Maheu-Picard, la directrice, pour regarder exactement l'impact du CTTEI, pas juste sur la région, mais sur l'ensemble du Québec. Et j'ai envie tout de suite de me retourner vers Lorraine Richard, qui est au téléphone, pour lui demander justement... vous dirigez, Lorraine, un organisme montérégien. Je sais que vous êtes en lien avec le CTTEI, mais... pourquoi est-ce que vous vous intéressez autant au CTTEI et à notre région?
Alors, oui, donc, le Comité 21 est une entreprise d'économie sociale à but non lucratif. On vient du secteur et d'expérience du secteur privé, mais on s'est rendu compte que pour avoir un plus grand impact avec les entreprises, il fallait créer des maillages entre elles, puis aussi avec d'autres acteurs économiques, dont les villes, les chambres de commerce, les institutions associé au développement économique. Tout ça pour accélérer la transition vers une économie verte, vers le développement durable. Maintenant, faut savoir que même si on a une expertise en environnement, en développement durable, puis qu'on appelle là, toutes les pratiques éco-responsables, il y a aussi des pairs qui travaillent depuis longtemps sur les enjeux associés justement à une économie nouvelle. Et le CTTEI a élaboré il y a plusieurs années toute cette démarche, au fond, de symbiose industrielle. Et je l'avais repéré parce que je connais bien Sorel, j'ai œuvré à Sorel, Tracy, puis pour connaître le CTTEI, j'étais tellement enthousiaste que j'ai voulu démarrer une symbiose. Donc, l'expertise vient du CTTEI, puis nous, on la met en œuvre, on est sur le terrain dans les entreprises.
Et je comprends, parce que vous en parliez hier à l'occasion de la conférence de presse dont on parlait tout à l'heure, l'expertise de la région, elle est importante, là. Quelqu'un disait hier, le développement durable, c'est dans l'ADN de la région. C'est comme ça que vous le percevez?
Ben oui, parce que dès le début, en fait, moi, je suis tombée dans le développement durable au début de l'an 2000. J'ai changé de carrière parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs. Puis j'ai compris que aller de l'avant, se questionner en affaires pour mieux comprendre nos impacts au fond dans la société et auprès de nos employés, puis avec nos fournisseurs, les questions du développement durable nous aidaient à mieux comprendre tout cet écosystème d'acteurs qu'on appelle aujourd'hui. Puis, c'était ma motivation là, de découvrir ça. Donc, dans mes premières recherches, Sorel Tracy était déjà dans une voie rapidement avec un plan de développement durable. Il y avait d'autres villes au Québec qui commençaient, mais somme toute, j'étais fière de faire partie de la Montérégie puis de savoir que j'avais quand même des gens qui avaient un intérêt pour le développement durable depuis longtemps. Donc oui, Sorel Tracy a eu de l'impact et le CTEI a contribué à faire rayonner votre région, mais la Montérégie, à travers le Québec, bien sûr, avec les 24 et les 23 autres hautes symbioses industrielles.
Qui existent à travers le Québec. Oui. Qui existent à l'heure du Québec. Ça, un jour, on va en reparler, vous faites certain de ça. Là, ça m'intéresse énormément de voir l'impact que le CTTEI a à l'extérieur de la région là, sur justement le maillage entre les entreprises. Écoutez, là, il y a des mots qu'on va entendre souvent, il y a des mots qu'on a déjà entendus depuis le début. Puis là, on va se donner ensemble un défi. On va essayer de définir encore plus concrètement l'économie circulaire. On va essayer là de... Puis tout à l'heure, vous allez voir, on va parler avec avec Héloïse puis avec Mario Fortin du Recyclocentre. Qu'est-ce que ça signifie très, très concrètement parce que c'est important. Mais Sylvie, tu as commencé tout à l'heure à expliquer l'économie circulaire. Oublions les mots. Puis essayons d'expliquer là les gens qui nous écoutent là. Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour qu'ils comprennent ce que ça signifie concrètement pour une entreprise que de penser circulaire au lieu de... Puis là, tout à l'heure, tu as dit linéaire. Puis à partir de là on explique ça comment, l'utilisation des ressources dans l'économie circulaire. Là.
Bien, par exemple, tu prends d'où viennent tes matières premières. Tu dis, bon, pour moins gaspiller, moins de transport, par exemple. D'où viennent mes matières premières?
Bon, attention, les matières premières, ça, c'est... Là, tu es une entreprise, là.
Oui.
Puis tu produis quelque chose.
Oui.
OK? Et là, pour produire ce quelque chose-là, tu as besoin de matière.
Oui.
OK? Si tu produis des poignées de porte, tu as besoin d'un peu de métal, puis tu as besoin de, je sais pas quoi, un peu de céramique ou de je sais pas trop, de porcelaine pour faire tes poignées de porte. Il faut que tu trouves cette matière-là. C'est ça que tu appelles les matières premières.
Oui, absolument. Puis tu te demandes d'où ils viennent, qui les produit et comment ils les produisent. Puis,
et à quel coût.
Et à quel coût. Puis est-ce que c'est si loin de chez moi? Y a-t-il d'autres fournisseurs qui pourraient m'offrir quelque chose de plus, de moins loin, donc qui dépenserait beaucoup moins de gaz à effet de serre puis moins d'énergie, puis à quel coût? Alors, c'est toutes ces prises de décision-là que tu prends. Par exemple, tu regardes le chauffage que tu utilises dans ton entreprise. Hein? Tu prends de l'énergie, de l'électricité. Y a-tu moyen que tu la coupes, cette énergie-là? Parce que regarde ta facture électrique, elle est chère.
Hein? C'est un ton coût de chauffage, ton coût d'électricité, il est répercuté dans ton coût de poignée de porte à la fin. Là.
Voilà. Fait que donc, tu dis, donc j'utilise des ressources. C'est pour ça que tu dis comment je pourrais les valoriser. Puis-je le couper, l'utiliser? Et donc, peut-être que tu pourrais t'installer un système justement pour contrôler ta facture énergétique. Donc, ça, c'est des coûts de moins. Et chaque décision comme ça que tu prends, lorsque tu produis, y a-t-il moyen que tu fasses mieux avec moins? C'est ça, cette pensée-là. Mieux avec moins.
Et il y a, ultimement, tu produis tu fais ton produit, tu as des déchets.
Oui.
OK? Puis là, les déchets, là, on ne parle pas nécessairement de bac noir. Il y a quelque chose qui reste à la fin dont tu dois te départir.
Oui.
Généralement, actuellement, si on est dans une pensée plus linéaire, tu te départis simplement de ce qui reste à la fin de ton processus de production.
Oui.
Ce que vous êtes en train de proposer, c'est de répondre à la question suivante. Ce qui reste à la fin, est-ce que quelqu'un d'autre peut l'utiliser comme matière première pour que, au lieu de s'en départir simplement, il y ait de la valeur et que ça contribue à la production d'autres choses? Est-ce que j'ai raison de le penser
absolument
comme ça?
Absolument. Puis avant même de penser, est-ce qu'il y a d'autres, tu peux même te poser la question, est-ce que moi, je peux réutiliser ce déchet-là qui devient une ressource, une opportunité. Alors, tu le prends plus comme quelque chose que tu dépenses, mais plutôt peut-être un potentiel de revenu supplémentaire. Donc, faire plus, moins, ça veut dire aussi des fois faire des gains. Et c'est là qu'on lie le gain économique aux gains environnementaux. Puis, c'est de ça qu'on parle comme nouveau modèle économique.
Lorraine, tout à l'heure, vous avez utilisé le mot symbiose. Vous avez parlé de maillage. Évidemment, ce qu'on vient de décrire, ça ne peut pas se faire uniquement en deux ou trois entreprises. On a intérêt à avoir une vision beaucoup plus large pour être capable de créer des liens entre les entreprises. Est-ce que c'est vraiment la définition de la symbiose?
Oui, bien, la symbiose, c'est d'être capable de comprendre son écosystème. Hein. C'est un peu comme la nature. Elle est elle-même en symbiose, elle est connectée. Elle se parle, mais nous aussi, on a travaillé, avec notre modèle, même universitaire et d'école par silo. Faut décloisonner le tout. Et certaines stratégies de l'économie circulaire nous aident à comprendre le processus. Puis le processus de comprendre la gestion de nos matières résiduelles, puis pourquoi payer pour les mettre dans les sites d'enfouissement et pourquoi pas les ramener et servir
dans le circuit,
d'autres.
Les ramener dans le circuit de production, là.
Circuit. Donc, il faut comprendre le mapping, il faut comprendre son écosystème. Alors, nous, on a comme ambition, au fond, le Comité 21 est un organisme national, mais on a pignon à Montérégie. Puis, comme je disais, initialement, toute cette idée-là est venue quand j'ai découvert Sorel Tracy. Puis maintenant, c'est rendu un projet montérégien qui inspire d'autres régions du Québec parce que on veut démontrer à travers une région administrative l'importance de travailler en collaboration entre tous les acteurs économiques, de bien comprendre de cette cartographie, si on prend l'exemple ici des matières résiduelles, pour être capable de fournir en matière d'autres entreprises. Ces matières peuvent servir la région ou d'autres régions qui cherchent des gisements.
Et justement, hier Lorraine, je m'excuse de vous interrompre, mais non. Hier, Lorraine, le maire de Sorel-Tracy, à la toute fin de la conférence de presse où vous étiez tous, a dit quelque chose aussi en perspective. Il a dit... les extrants, c'est-à-dire nos fameux déchets, entre guillemets, là, des entreprises, peuvent être des matières qui pourraient convaincre des entreprises à venir s'installer dans la région parce que ça pourrait être justement ce dont ils ont besoin. Et là, c'est une nouvelle approche, justement, qui permet de comprendre les liens qui existent entre les entreprises, le développement économique puis le développement d'un territoire.
Oui, parce que même l'entreprise qui veut s'installer, donc on est attractif et il faut être capable de garantir à l'entreprise qu'il y aura toujours ses ressources. Alors, c'est un enjeu de ressources quand on veut produire. Alors, à quelque part, ben, le fait qu'on comprend bien l'écosystème, qu'on a les données quantifiées, puis sont tenues à jour, puis ben, ça permet au fond d'avoir des données fiables pour être capable de faire une planification stratégique de développement d'affaires, en effet. Donc, notre ambition, c'est 250 entreprises actuellement à Montérégie, avec les premiers partenaires que nous avons, avec de différents autres partenaires de Montérégie. Donc, oui, il faut augmenter le nombre de participants dans le temps, en effet. Il faut avoir un meilleur mapping.
Là, on va tout à l'heure revenir sur l'impact que ça a dans le développement d'une région. Là, entre autres, j'ai avoir des questions pour René Lachapelle tout à l'heure. Mais on a nommé, depuis le début, 4 entreprises qui participent à ce projet-là. Je comprends, Sylvie, que c'est la première année du projet. Mais on en a 2 avec nous. Ici, on a le Recyclocentre et Botanique-Comptoir Richelieu. Là, j'ai hâte de les entendre pour connaître les raisons de leur participation, puis aussi pour voir comment elles en tirent des bénéfices. Donc, écoutez, on va faire une petite pause, parce qu'il faut bien les faire, ces pauses, puis on se retrouve tout de suite après avec Mario Fortin puis Héloïse Paquin.
Véronique Lavé. Soyez à l'écoute de l'émission En route vers l'Ouest tous les samedis de 6h à 7h sur les ondes de CJSO. Soyez en route vers l'Ouest.
En route vers l'Ouest.
développement économique, Pierre de Sorel travaille à la création d'emplois durables dans la région en soutenant et stimulant l'entrepreneuriat. Son mandat repose sur une vision large du développement, c'est-à-dire offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire, ainsi qu'assurer la croissance des entreprises. Développement économique, Pierre de Sorel fait connaître les projets d'affaires et travaille en étroite collaboration avec les partenaires du milieu afin de mettre en place des conditions favorables au développement de la région. Faites-nous part de vos projets d'affaires sur notre site web.
Chez Meubles André Beaulieu, jusqu'au 29 mars, profitez de la promotion des électroménagers fiables. Économisez jusqu'à 300 $ additionnels sur les électroménagers Maytag admissibles. Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez aussi une vaste sélection de mobilier de salon, de chambres à coucher et de matelas pour répondre à chacun de vos besoins. Nos conseillers sont là pour vous guider. Profitez de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Pour en savoir plus, visitez lemeublebeaulieu.ca. Meubles André Beaulieu s'impose de génération en génération depuis plus de 40 ans.
L'hiver, la neige, le vent, les tempêtes. Mais ce qu'il y a de plaisant, ce sont des randonnées en pleine nature. Pour les planifier, ne manquez pas les conditions du sentier VTT diffusées tous les vendredis, 7h40. Vous obtiendrez un résumé complet concernant les conditions des sentiers et l'organisation des différentes activités. Les conditions de sentier VTT, une présentation de Performance NC et du bar 525. Tête première est une présentation de Lucier. Développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaulieu et du magazine Contact Affaires. Parce qu'un débat, ce n'est pas une chicane, mais bien une façon de faire avancer les choses. De retour à Tête première avec Denis Marion.
Écoutez, on a parlé de toutes sortes d'affaires absolument passionnantes qui sont liées au développement économique de la région, qui sont liées à la vie très, très concrète de plein de monde qui sont, qui vont travailler le matin là où ils sont, puis qui génère notre activité économique, notre dynamisme de région. On en a deux avec nous, là, puis on va aller un petit peu plus loin sur les raisons qui vous motivent à participer au projet dont on parle depuis tout à l'heure. D'abord, vous connaissez très bien Botanique du comptoir Richelieu. Héloïse Paquin est avec nous. Héloïse, qu'est-ce que vous êtes allée faire dans ce projet-là? C'est quoi les objectifs que vous poursuiviez en acceptant d'y participer?
Premièrement, je dirais que je parle, mais je vais parler quand même au nom de ma sœur. Tu sais, on est pas mal main dans la main là, dans tous nos projets.
Je vous dirais votre sœur, parce que toutes les deux, vous êtes copropriétaires.
Oui, c'est ça. On est vraiment les deux propriétaires. Je vous dirais que moi, c'est toujours dans ma tête, tu sais, de réduire mon empreinte. Réduire mon empreinte environnementale. Bon, je le fais. Bon, personnellement, dans ma vie, on a une ferme aussi. On a une ferme de grande culture à Saint-Robert qu'on a certifié biologique. Bon. Au centre jardin, ben, en 2004, on a bâti un nouveau commerce. On a essayé de le faire à ce moment-là le plus vert. Chauffer, climatiser, géothermie, les éclairages aussi. Mais là, bon, ben plus ça va, plus il y a du développement. Et donc, moi, je commence à me conscientiser à l'eau qu'on utilise. Puis ça fait quelques années que j'y pense. Puis je me dis, Caroline, l'eau, j'en ai besoin. Là, j'en ai besoin de beaucoup. Je peux pas dire j'ai pas d'eau une journée, là, parce que je perds mon matériel.
Là, c'est l'inventaire, mes plans. Là,
ben oui,
plans,
là, ça m'en sûr, prend de l'eau. Et puis, c'est Sylvie qui est arrivée avec ce projet-là, puis j'ai fait oui. Tu sais, c'est oui, ça répond.
Comment elle vous a présenté ça? Comment est-ce qu'elle voulait présenter ça à Sophie, à toi, le projet?
Ben, elle m'a contactée, puis elle m'a amené vraiment, tu sais, en disant qu'elle pensait à nous parce que, tu sais, déjà, on a une conscience par des gestes qu'on a déjà.
Des efforts
qu'on a déjà faits. Puis elle nous le proposait. Puis c'est ça. Il voulait commencer le projet. Je pensais pas tant d'entreprises au début. Tu sais, vraiment de le partir là, sur une bonne base. Puis après ça, ben c'est ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plein d'autres entreprises qui se.
Et ça va vouloir dire quoi concrètement pour vous, la participation à ce projet-là? Qu'est-ce que vous visez? C'est quoi les objectifs que vous souhaitez atteindre? Comment ça se traduit, là, en fait, pour qu'on comprenne ce que ça veut dire pour vous autres?
Oui. Bien, premièrement, il y a eu un inventaire qui a été fait de tous nos matières premières, qu'est-ce qu'on a besoin, et donc nos matières qu'on rejette aussi.
Puis là, les matières premières, dans votre cas, ce serait quoi?
Bien, c'est sûr que de l'eau.
De l'eau, bien sûr.
On utilise beaucoup. Matières premières, bien, ça peut être aussi des terreaux, des choses, des pots de plastique. L'horticulture, c'est beau, c'est des plantes, c'est vert, mais Le plastique, on utilise beaucoup. Et puis, souvent, c'est des pots qu'on... Bon, ben, il y a une partie que les gens... Bon, il y en a que c'est recyclable, il y en a que c'est pas recyclable, malheureusement. Donc, c'est aussi de revaloriser là, ça, c'est ce plastique-là. L'énergie aussi qu'on utilise. Bon, le commerce est chauffé géothermie, mais j'ai des serres de production, eux autres, qui
là,
sont...
On va juste dire, la géothermie, c'est que vous utilisez la chaleur de la terre... pour chauffer votre c'est un circuit là qui,
c'est un circuit fermé
circuit d'eau qui utilise la chaleur de
l'énergie
la terre,
de la terre.
La terre elle va jamais moins que 7 degrés si je me trompe pas là, quelque chose comme ça, ce qui fait que ça revient moins cher de chauffer.
En fait, c'est un peu l'été. On va chercher, on envoie la chaleur dans le sol, donc parce que mon circuit est fermé, donc cette eau-là se refroidit en allant dans le sol. Donc, on va aller puiser cette fraîcheur-là avec la thermopompe pour climatiser, mais on renvoie de la chaleur qu'on va aller rechercher durant l'hiver. Donc, c'est vraiment un circuit là, qui... c'est
circulaire.
Oui, c'est ça, circulaire. Hein, c'est le mot du jour.
Oui, tout à fait.
Mais ça fonctionne dans des pays tempérés, parce que ça ne peut pas fonctionner
dans des pays
du sud.
Où la température est toujours la même. Oui. Bien sûr, bien sûr. Parlons-en donc juste un petit peu quand même de l'eau, là, parce qu'on comprend qu'on ne parle pas de 3-4 litres d'eau là, dans votre cas. Là.
Non. Avec Pascal là, du comité 21, on a donc calculé le nombre de litres qu'on utilise. Et on s'est rendu compte qu'on utilise l'équivalent de trois piscines olympiques à chaque été. J'ai tombé en bas de ma chaise, faites le saut, en tout cas, on peut tout dire, mais c'est énorme, là.
Donc, c'est une préoccupation que vous avez, là. Avec le projet, là, ça fait partie des affaires que vous voulez évaluer.
Oui.
Est-ce qu'on peut utiliser l'eau autrement? Est-ce qu'on peut la réutiliser? J'imagine que ça doit être aussi un des objectifs.
Oui, c'est surtout la réutilisation, de garder cette eau-là qu'on utilise, la traiter pour la réutiliser. Exactement.
Héloïse, quand tu regardes devant, grâce au projet, tu penses à quoi? Y a-t-il d'autres enjeux auxquels... parce que là, tout ce que tu dis depuis le début, c'est comment je fais pour faire en sorte que mon empreinte environnementale soit moins forte, moins importante, mais en même temps, vous visez la rentabilité de l'entreprise. Vous voulez vous assurer aussi de pouvoir poursuivre vos activités puis de continuer d'offrir les services que vous offrez à la population. Y a-t-il d'autres endroits que vous regardez pour l'avenir sur lesquels vous... parce qu'on parlait des plastiques, par exemple. Là,
Oui, plastique. Les pots... C'est sûr que si c'est vraiment pour une réutilisation, si j'ai pas besoin d'en racheter, bon ben c'est déjà un gain économique. Si je peux aussi amener d'autres entreprises, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises horticoles au Québec, si ça peut être un exemple pour d'autres entreprises aussi, tant mieux.
Je me posais la question, tu sais, on parlait tout à l'heure là, de liens avec d'autres entreprises. Tu les vois où, les liens avec d'autres entreprises dans votre cas? Dans la région ou ailleurs, parce que dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est préférable dans la région, bien sûr. Là, mais...
Oui, ben oui, c'est ça. C'est sûr que c'est le plus proche. C'est ça. Pour l'instant, on est vraiment à l'étape...
À l'analyse
beaucoup de nos intrants, nos extrants. Et c'est ce qui est génial avec le comité 21, c'est qu'on a des experts qui, eux, ont vraiment des contacts et qui vont nous mettre en contact avec d'autres entreprises. Puis...
Moi, ce que je trouve de plus intéressant dans ce que tu dis, Héloïse, c'est de constater que dans une entreprise, parce que je suis convaincu que du matin jusqu'au soir, particulièrement à partir du printemps, vous n'avez pas nécessairement beaucoup de temps pour jaser, philosopher ou faire des trucs comme ça. Vous avez cette réflexion-là sur qu'est-ce que ça signifie au bout de faire ce que nous faisons, puis quel impact on a dans la façon dont on agit. Et ce que je comprends du projet, Sylvie, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui se posent des questions similaires là, actuellement.
Oui. Là, on est dans la première année d'opération, puis une des raisons qu'on voulait d'avoir peu d'entreprises, mais plutôt y aller avec qualité, c'était d'entamer une deuxième, troisième, quatrième année. Pourquoi? Parce que après, là, on a fait le diagnostic qui a été quand même substantiel. Là, on va faire le plan d'action. Donc, évaluer toutes les options inimaginables et des coûts associés à ces décisions-là. Et après, on va prendre des décisions pour implanter justement des projets qui puissent permettre de faire des gains économiques, mais aussi des gains environnementaux.
Là, on change de domaine complètement. On s'en va au recyclocentre. Vous connaissez tous le recyclocentre. Vous savez que c'est un endroit où on accueille les dons, où on peut évidemment permettre à des gens d'acheter du matériel de... j'essaie de ne pas dire seconde main.
On peut dire ça.
Oui, c'est ça. Mais vous comprenez ce que... Non, je veux dire, ce que je veux dire, c'est en anglais. Là, c'est, j'essaie de trouver le mot français, mais ce n'est pas grave. Mario, pourquoi vous embarquez là-dedans? Qu'est-ce que vous avez à voir dans ça, vous autres, l'économie circulaire?
Nous, c'est une opportunité. Là, on l'a saisi rapidement quand on a su qu'on pouvait avoir ce projet-là parce que on vise... principalement le textile là, dans une première étape. On a catégorisé, puis on reçoit beaucoup de textiles.
Bon, le textile, on parle de vêtements. Là. Quand les gens viennent, comme oui. on fait tous, là, aller porter des vêtements.
On en reçoit beaucoup, on en vend beaucoup, mais il y a quand même des catégories de vêtements qu'on ne peut pas vendre. Par exemple, qu'on fait des guenilles avec, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut valoriser la matière pour créer de la valeur? Puis nous, on est vraiment là-dedans dans la pensée qu'il faut créer de la valeur avec ce qu'on a, à la place d'envoyer ça peut-être en enfouissement ou...
Je m'excuse, là, mais je veux vraiment qu'on s'entende sur le mot. Là. Quand tu dis on va trouver de la valeur, on va créer de la valeur, ce que ça veut dire, c'est que si je prends un paquet de trucs qui est sur le plancher du recyclocentre, du magasin du recyclocentre, puis que je l'envoie à l'enfouissement, il y a zéro, là. Ça sert absolument à rien, là.
Non.
Si je prends la même boîte, mais que je suis capable... de le vendre, en guillemets, à quelqu'un qui peut être intéressé à faire quelque chose, c'est un avantage pour le recyclocentre parce que là, on augmente sa possibilité de faire des revenus. C'est ça, créer de la valeur.
Ben oui, puis dans les deux côtés, on va faire de l'argent avec ça, mais aussi, on va aider à l'environnement.
Tu sais, c'est ça. Là, ça, c'est on est encore une fois dans les deux, avec les deux objectifs.
Exactement.
Là.
Puis tantôt, Héloïse parlait des plastiques. Bien, on n'est vraiment pas dans le même domaine, mais on a les mêmes enjeux. Du plastique, on en a chez nous, puis à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec ce plastique-là qu'on ne réussit pas à vendre? Par exemple, des jouets qui sont défectueux, qui sont cassés, des plats de plastique, là, que visiblement, il y a eu beaucoup trop de spaghettis de manger dedans. qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, nous, la première étape, c'était de voir avec les vêtements, le textile, avec la SADC, puis on se met dans ce minding-là pour les plastiques, on va faire quoi? Puis notre objectif, un peu notre rêve, Alexandra qui participait hier et moi, puis notre conseil d'administration, tout le monde, c'est à un moment donné, on va-tu être capable, nous autres, de les prendre nos plastiques puis de créer quelque chose de nouveau avec, un nouveau produit qu'on mettrait sur le marché, par exemple, puis qui ferait qu'on n'aurait pas enfoui, on crée de la valeur, on fait de l'argent, puis pour moi, puis ça, c'était un petit éditorial là, que René est habitué de m'entendre dire, mais pour moi, économie circulaire puis économie sociale est intimement liée. Tu fais plus d'argent, c'est remis dans ton entreprise, puis les gens en profitent, puis la communauté aussi.
Tout à fait, puis faut le dire, là, le coût le plus élevé dans le traitement des matières résiduelles, là, de nos déchets, c'est l'enfouissement.
Oui.
Parce que, évidemment, c'est pas très écologique que d'enfouir dans un premier temps, et le gouvernement surtaxe l'enfouissement. C'est-à-dire que quand la MRC qui ramasse nos bacs noirs va enfouir, elle se retrouve à payer de l'argent pour enfouir, puis c'est la même chose pour les industries, les commerces, puis les institutions, exactement. On passe à la commission scolaire, on passe à l'hôpital. Quand on enfouit, on paye. Tandis que quand on a cette démarche-là dont vous parlez tous les deux, où on essaie de prendre ce qui reste à la fin, puis de le revaloriser, de lui donner une nouvelle vie, parce que c'est ça l'objectif. Non seulement on lui donne une nouvelle vie, si je comprends bien, là, mais en plus, on donne une occasion à une autre entreprise ou à la même entreprise de développer de nouveaux produits. Et donc, on recrée un cycle de production à partir de ce qui existe déjà.
Absolument.
Puis là, à ce moment-là, ça devient très avantageux, autant pour les entreprises que vous êtes, que pour la région qui bénéficie des efforts que vous entreprenez.
Puis en entrée d'émission, Denis, si tu me permets, tu as évoqué qu'on avait la gestion de l'éco-centre.
Oui.
Il y a des gens qui se disent, qui pensent encore qu'ils vont à la dompe, là, tu sais, que tu vas mettre tes affaires dans un trou, puis Puis qui se demande pourquoi que c'est comme ça, qu'on sépare vraiment les matières le mieux possible, le bois avec le bois, le bardeau avec le bardeau. Parce que tout ça a un coût, puis quand c'est enfoui, par exemple, des déchets mêlés de toute provenance, ça coûte extrêmement cher. Puis, tu sais, on demande si ça fait quelque chose chez le citoyen. Ben oui, plus que ça coûte cher, plus que tes taxes augmentent. En séparant les matières, ben ça fait baisser le coût. Mais si on va encore plus loin, puis on valorise ces matières-là, puis on trouve des issues, et là, tout le monde est gagnant. On a des baisses de taxes, on a moins d'enfouissement, on a de la valorisation de la matière, de la création de valeur. Alors, je pense que quand il y a des projets comme ça, il faut sauter là-dessus. Puis c'est de la recherche et développement, au final, là, qu'on est en train de faire.
Tout à fait. Puis comment je peux dire ça? C'est justement, c'est de ça dont on va parler dans l'autre bloc après, quand on va, après la pause. Là, la région, elle a une expertise en développement durable. Lorraine nous l'a dit tout à l'heure, on l'a tous souligné, que ce soit à travers les différents plans d'action qui avaient été définis dans les deux années 2000. Je regarde René qui, à l'époque, présidait justement le conseil d'administration de la SADC, qui on a siégé ensemble sur toutes sortes de comités là, qui visaient ça. Mais après la pause, là, moi, j'aimerais ça qu'on voit... On a vu de plus façon plus spécifique ce que ça peut apporter aux entreprises. J'aimerais ça qu'on parle de ce que ça peut apporter à une région que d'avoir cette vision-là de développement. Après la pause, on poursuit.
Ce vendredi, les Éperviers seront au centre sportif de la Croix-du-Tille de Saint-Georges-de-Beauce pour y affronter le Cool FM. Il s'agira de leur avant-dernier match de la saison régulière. Branchez-vous ou connectez-vous dès 19h45 pour l'avant-match. Ce match extérieur de la saison 2022-2023 des Éperviers de Sorel-Tracy est une présentation du groupe RM en collaboration avec Lucien, Bonbon Dilla, Pizza Sema, Jim's Rotisserie et Chichetahouk de Kevin Lucien, conseiller en sécurité financière et le salon S. Jacques Épice. Le hockey des Éperviers SCJSO du hockey. Typiquement sur Eloi.
Tous les dimanches de 11h à 14h, Allo Showbiz, c'est de l'excellente musique, de magnifiques concours sur les réseaux sociaux, mais aussi de la belle visite. Et ce dimanche, on parle de la série Lou et Sophie avec Jade Charbonneau. Michel Groux vient nous parler de son roman Maman. Et on se rappelle les 20 ans de Star Academy avec François Babin, Jean-François Bastien et Élise Robineau. C'est ce dimanche à Allo Showbiz.
Les plus gros succès dans la grande région de Sorel-Tracy, ils sont ici.
CJSO 101.7.
Développement économique, Pierre de Sorel travaille à la création d'emplois durables dans la région en soutenant et stimulant l'entrepreneuriat. Son mandat repose sur une vision large du développement, c'est-à-dire offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire, ainsi qu'assurer la croissance des entreprises. Développement économique, Pierre de Sorel fait connaître les projets d'affaires et travaille en étroite collaboration avec les partenaires du milieu afin de mettre en place des conditions favorables au développement de la région. Faites-nous part de vos projets d'affaires sur notre site web.
Tête première est une présentation de Lucier, développement économique Pierre de Sorel, de Meubles André Beaudieu et du magazine Contact Affaires.
Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud, de retour à Tête Première avec Denis Larion.
Écoutez, on fait le tour là, de ce que ça peut signifier, une approche peut-être un petit peu différente dans le développement économique, voir comment est-ce que finalement nos enjeux de lien avec nos empreintes environnementales ne sont pas vues comme des perspectives négatives, mais comme plutôt des opportunités pour du développement puis de la qualité dans la région. René Lachapelle, quand vous regardez ce qu'on vient de dire, là, quand vous écoutez ce qu'on vient de dire, est-ce que c'est utile pour une région de penser comme ça?
Non seulement c'est utile, c'est le passage nécessaire parce que dans le contexte où on se trouve actuellement, là, on doit travailler pour la transition socio-écologique, c'est-à-dire changer à la fois nos habitudes sociales et notre capacité d'action économique. Alors, avoir une économie, par exemple, qui n'est pas basée sur une utilisation toujours plus grande des ressources, mais sur la réutilisation des ressources, parce qu'il y en a plein, là. Tu sais, tantôt, Mario parlait des les vêtements, par exemple, c'est 200 tonnes que vous ramassez à peu près par année de vêtements. Là-dessus, il y en a une quarantaine qui vont être revendus parce que c'est du matériel qui est attrayant pour les gens. Le restant, là, comment est-ce qu'on fait? Puis ça, c'est un problème mondial, là. C'est pas un problème sorellois. Qu'est-ce qu'on fait avec les tonnes qui restent? Si on les enfouit, là, ils vont être là pendant des décennies. Hein, le matériel qu'on utilise maintenant pour faire des vêtements modernes, là, c'est, qui permettent d'être extensibles un peu, c'est de la stan, et ça ne se détruit pas. Ça persiste dans l'environnement. Alors, il y a un avantage à trouver des solutions, puis des démarches comme le Recyclocentre, je connaissais moins la démarche de Botanix, mais c'est en plein dans ce sens-là qu'il faut aller, c'est-à-dire avoir une économie qui est sobre, tu sais, qui est capable de nous assurer un confort, une efficacité, mais en même temps qui ne va pas surconsommer les ressources.
Je vais poser la même question à Lorraine tout à l'heure, René, mais est-ce qu'on est la seule région à penser comme ça au Québec?
Non, mais moi, je pense qu'on est une des bonnes régions. je sais, par exemple, qu'il y a beaucoup d'initiatives au Saguenay-Lac-Saint-Jean, autour de l'UQAC particulièrement. Puis il y a des
L'Université du Québec à Chicoutimi.
Oui, c'est ça. Il y a des démarches qui impliquent même les citoyens, là, tu sais, qui sont très intéressantes. Moi, mon terrain de recherche actuellement, c'est les communautés rurales, particulièrement en Gaspésie et de la Madeleine. Et là aussi, il y a des gens, particulièrement des nouveaux Gaspésiens, qui arrivent en Gaspésie et qui disent, ici, là, il y a un immense potentiel pour ne pas dépendre des chaînes d'approvisionnement mondiales, mais, tu sais, par exemple, être capable de reprendre la culture, le jardin potager qui permettait aux familles de subsister dans le temps, qui sont complètement disparus avec l'arrivée des grandes chaînes alimentaires. Alors, ils sont en train de recréer ça. Il y a une organisatrice communautaire qui me racontait qu'elle était très, très fière parce que l'usine de traitement des homards qui est dans sa collectivité, bien, eux autres, ils jetaient les rebuts, tu sais, après le décortiquage des homards. Elle dit, là, moi, j'ai travaillé, parce que je connais l'agronomie, on a travaillé pour transformer ça en engrais. Alors, on a deux avantages. L'usine, elle a plus de déchets à enfouir, à payer pour les enfouir. Mais pas juste ça. Les jardins, là, tu devrais voir comment ils sont beaux parce que ça a beaucoup augmenté la capacité de production.
C'est un bel exemple. C'est un exemple hyper concret.
Très, très concret.
C'est sûr qu'on manque un peu de homard ici, là, mais on comprend très bien. Ce que je veux dire par ça, René, c'est chaque région a aussi ses spécificités. Chaque région a aussi intérêt à ancrer ces expériences-là dans ce qu'on a pour vrai, là, parce que c'est ça qui fait que, quelque part, justement, on n'est pas juste dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, mais qu'on est très liés les uns aux autres par rapport à la réalité. Et là, je vois Sylvie qui
en parlant de mondial, c'est pas juste les petites entreprises qui prennent ce virage-là, ni les citoyens. Chez nous, Rio Tinto, avec ses déchets produits par l'Illuminite, on vient d'aller chercher un déchet qui s'appelle le scandium. Or, le scandium, là, ça se retrouvait dans notre chaîne là, d'illuminite, puis on l'enfouissait. Mais aujourd'hui, on a décidé, parce qu'ils ont utilisé une nouvelle technologie pour aller extraire...
Parce qu'il y a eu la recherche et du développement.
Voilà, ils ont été extraits. Puis là, aujourd'hui, le scandium se retrouve dans des matériaux hyper importants pour le 21e siècle. Donc, c'est pas juste là, l'apanage d'une petite entreprise ou de citoyens. Là. C'est le mindset, le nouveau mindset, la nouvelle façon de penser du modèle économique. Et ça appartient aussi aux grands de ce monde.
Mario?
Moi, je voulais juste dire que l'exemple de René, je l'ai trouvé intéressant, puis que ça fait que l'économie circulaire, ça l'induit aussi des nouvelles façons de penser. Si on fait toujours comme on faisait, on a les mêmes résultats. Si on fait différemment, on en a d'autres. Puis l'exemple est parfait, puis c'est ça l'économie circulaire pour moi.
Lorraine, vous travaillez sur l'ensemble du territoire de la Montérégie. Avez-vous d'autres exemples comme ça à nous donner sur des choses qui sont en train de d'émerger, là, si on veut, là, sur le territoire de la Montérégie?
Oui, je dirais, avant ça, pour une parenthèse, je vais réagir tantôt, puis je donne l'exemple. Faut savoir que, oui, il y a un coût, hein, aux matières résiduelles, on en a parlé tantôt, mais l'autre coût, il est souvent pas apparent, puis ça, on a besoin de réaliser ce qu'on appelle la CFM, que l'analyse du coût du flux de matière. Donc, il y a un coût, bien sûr, pour s'en départir, mais quand on comprend mieux l'impact de toute la manipulation et tout l'impact que où se trouve la matière et comment qu'elle est gérée de son entrée jusqu'à la sortie, on s'aperçoit que le coût est plus élevé des fois dans l'opération et non pas nécessairement en fin de vie lorsqu'on veut l'évacuer. Donc, ça permet de dire, au fond, que si je modifie la fabrication de mon item, de mon produit, je vais occasionner moins de déchets, et ainsi de suite, ce coût-là, ben, il peut être rattrapé, justement.
Et donc, ce n'est pas que le déchet qui coûte cher, mais l'utilisation, le fait de mal, entre guillemets, l'utiliser en cours de production.
C'est ça. Oui, le coût est ailleurs. Il n'est pas nécessairement à la fin. Donc, en faisant l'exercice, on gère pas juste la fin, on gère aussi l'ensemble du processus pour identifier que, oui, s'il y a une économie d'argent ici à faire, ça justifie l'investissement pour le changement. Alors, donc, ça se paye tout seul. Mais il faut faire l'exercice, donc ça prend une introspection. Alors, oui, il y a plusieurs exemples d'entreprises là, qui, justement, ont pu voir à travers cette analyse-là qu'ils modifient tout simplement le niveau de la coupe pour avoir moins de déchets. Alors, des fois, les changements sont simples à faire, mais au moins, le bon geste a été repéré.
Mais j'aime le fait que vous disiez que parfois, les changements sont simples à faire. Je pense que c'est ça que le monde a besoin d'entendre.
Oui.
C'est qu'il y a des changements qui sont simples à faire.
Et qui motivent les employés, parce qu'il y a beaucoup d'employés qui sont démobilisés parce qu'ils voient que leur entreprise sont pas nécessairement engagées pour diminuer leur impact environnemental, parce que de plus en plus, leurs enfants qui vont à l'école puis prennent des initiatives à l'école, demande aux parents, et papa, maman, vous faites quoi au travail? Alors, s'ils n'ont rien à raconter, vient un moment donné où on se pose la question, ben, à vrai dire, ça va où tout ça? Alors, faut gérer par le gros bon sens, puis une étape à la fois.
Moi, j'ai envie de vous poser la question à tout le monde. Est-ce qu'il y a un prix à payer à ne pas s'engager dans ce processus-là? Parce que ce que je vois, c'est que à l'heure actuelle, là, dans ce qu'on dit, il n'y a personne qui perd là, à s'engager là-dedans. Mais est-ce que si on ne le fait pas, il va pas y avoir un prix collectif
pandémie?
Mais le prix peut venir, tu sais, à boxe, là, des fois, il y a un coup de poing qui s'en vient que tu n'as pas vu. Là. Ben, c'est ça. Alors, ça veut dire qu'en ce moment, on le voit, il y a des entreprises qui sont là-dedans depuis un bon moment, qui sont tellement motivées, les employés embarquent aussi, participent aux solutions. Donc, il y a des entreprises qui disent qu'ils n'ont pas de problème d'embauche. Ils refusent du monde parce que les gens veulent travailler chez eux. Alors, en ce moment, on a un problème de pénurie d'emploi, puis l'attractivité, c'est aussi qui sommes-nous en tant qu'entreprise, quelles valeurs et comment je mets en œuvre ces valeurs-là. Et les meilleures personnes pour aider à mettre ça en place, c'est pas tout seul, c'est avec son monde. Et ça, c'est l'enjeu, au fond, que j'appelle, qu'on voit pas, mais qui est réellement lié. Et voilà, donc je peux dire que c'est lié à l'attractivité, les bénéfices sont à la fois environnementaux. Puis tantôt, on a mentionné le volet social. Et moi, je vois très bien que si on ne s'occupe pas du social dans son entreprise, en santé, sécurité, développement de compétences, on ne peut pas faire du bon environnement. Puis on ne peut pas faire du bon environnement sans le social et vice-versa.
Et vous avez raison d'évoquer le fait de la réputation de l'entreprise, c'est-à-dire à un moment donné, les gens voient très bien qu'une entreprise est engagée dans une démarche qui est intéressante et qui va, surtout dans nos périodes de pénurie de main-d'œuvre, une entreprise a intérêt à présenter une image d'elle-même qui soit moderne, collée sur la réalité, puis les préoccupations de la population si elle veut attirer du personnel. Sylvie, t'allais réagir quand je disais de parler du prix à payer.
Oui, bien, du prix à payer, bien, on parlait des entreprises, entre guillemets. Aujourd'hui, les valeurs véhiculées par la plupart des entreprises, on parle de valeurs comme de bienveillance. Ça, c'est nouveau. Avant, on parlait de valeurs de performance, d'optimisation, de puissance, etc. Mais aujourd'hui, pour attirer la jeune main-d'œuvre, tu dois être préoccupé par ton empreinte. Qu'est-ce que tu laisses? Pourquoi tu es là? Pour quelle raison? Et ça, avoir de la valeur, bien, de la valeur de dire, bien, moi, je contribue à ma communauté et mon objectif, c'est même d'avoir une carboneutralité. L'idéal, ce serait d'avoir une économie qui génère plus qu'à consomme. Imaginons-nous
comment inverser complètement
c'est vers là qu'on s'en
actuelle,
va. Mais là, c'est vrai que là, je suis peut-être un petit peu à 25 ouais,
mais,
pieds.
Oui, mais on est haut, là. Oui. Mais ce que moi, j'ai aimé aujourd'hui, là, c'est qu'on a été capable de prendre quelque chose qui a l'air très, très haut, puis on l'a ramené très, très proche de la réalité. Puis je pense que les gens sont en mesure de très bien comprendre ce qu'on essaie de dire aujourd'hui. René, tu allais dire quelque chose?
Oui, bien, c'est ça, dans le même sens que Sylvie. C'est-à-dire qu'en quelque part, si on ne s'en va pas vers une économie qui permet de nous assurer une vie intéressante, des conditions de vie intéressantes, pas juste pour nous autres, les pays riches, mais à l'échelle de la planète, parce qu'on s'entend, là, 80% de la population vit dans des conditions pénibles. on n'est pas capable d'assurer ça en consommant moins, bien, on s'en va complètement dans le mur. Il n'y aura tout simplement pas d'avenir pour personne. Alors moi, je pense que là, il y a un défi. Et ça, je parlais tantôt de la dimension sociale. Là, on a beaucoup valorisé le rôle des entreprises. C'est capital. Si l'économie ne change pas, on ne fera pas la bascule qu'il faut faire. Mais pour que cette économie-là change, il faut aussi que les gens soient convaincus que c'est essentiel de le faire. Et là, souvent, on leur présente ça comme il y a des sacrifices à faire, tu consommes pas. Bon, c'est moins ça. Il faudrait être capable de montrer aux gens, puis je trouve que l'économie circulaire, c'est ça qui est beau là-dedans, montrer aux gens que non, c'est pas, tu te prives pas, tu te donnes des bonnes conditions. Aller porter tes choses dont tu ne veux plus au recyclocentre, aller déposer tes déchets triés à l'éco-centre, tu ne perds rien là-dedans. Tu es même gagnant, tu n'es pas prêt avec tes encombrements. Puis collectivement, on est gagnant. Tu sais, la municipalité va payer moins pour l'enfouissement, etc. Bon, on peut
continuer. Mais c'est vrai qu'on a tendance à parler des efforts à faire, du confort qu'on va perdre, etc. Mais on oublie trop souvent de dire qu'est-ce qu'il va y avoir comme qualité de vie de l'autre côté de nos changements. Héloïse?
J'allais juste ajouter, l'idéal, c'est que le développement se fasse automatiquement en intégrant toutes les sphères, la sphère sociale, la sphère environnementale. T'sais, qu'on ait juste, qu'on fasse un développement, qu'on ouvre une entreprise, un entrepreneur qui veut ouvrir une entreprise, qui pense à tous ces volets-là.
Si tu étais assise à côté de quelqu'un à un dîner de la Chambre de commerce, là, en quelques mots, là, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais en quelques mots, tu lui dirais quoi pour le convaincre de participer à un projet comme celui-là?
Bien, moi, je lui dirais que si tu veux bien dormir le soir, arrange-toi pour que... Dans le fond, même dans nos vies personnelles, ce qu'on veut, c'est améliorer bon, le monde, améliorer notre environnement, on en a du pouvoir de le faire. C'est tous nous autres, un chacun, qu'on a le pouvoir de changer les choses. Il ne faut pas arrêter d'attendre après le gouvernement qui vienne nous dire de faire telle chose. Bon, c'est nous autres qui l'ont le pouvoir. Fait, allons-y, puis on va être fiers après là, si on crée des beaux changements.
Mon Dieu, c'était un message intéressant d'une entrepreneure importante de la région. Écoutez, d'abord, merci énormément à tout le monde. Lorraine à l'autre bout au téléphone, merci d'avoir été avec nous. On est très heureux. Sylvie Pouliot de la SADC, Mario Fortin du CJE, mais aussi du Recyclocentre et de l'Écocentre, Héloïse Paquin de Botanix Comptoir Richelieu, René Lachapelle, chercheur et... leader de la région, là, disons-le pour ce que c'est. Vous avez vu, là, la région, elle est dynamique. Les gens d'ici, je pense qu'ils sont prêts à essayer des nouvelles approches. On est pas mal conscient, tout le monde, du fait de partager les résultats positifs. Ça va avoir un incitatif à travailler autrement. Puis la région, elle a des partenaires on a les partenaires qu'il faut avec le CTTEI, avec la SADC. On a nos amis du Comité 21. Pour accompagner les entreprises. On devrait être plutôt fiers de ça. On ne part pas de zéro. Merci tout le monde. À bientôt.